Avec ce soir, Ségolène Royal. Bonsoir, l'ancienne ministre et candidate à l'élection présidentielle. Bonsoir, Alain Duhamel.
Bonsoir.
On a une photo aujourd'hui du président de la République dans le cadre d'un forum sur la stratégie et la défense, vous voyez, entouré de 30 chefs d'état-major des armées, des alliés, pour réfléchir au scénario, si jamais il y a une trêve ou une paix entre la Russie et l'Ukraine, des forces qui pourraient venir en appui de cette paix ou de cette trêve. Le président de la République qui tient à faire entendre la voix de la France, la voix de l'Europe, la voix des alliés face aux États-Unis et à la Russie. On a entendu parler de menaces aussi à propos de la Russie, ce qui fait que les critiques tombent contre le président de la République. On accuse d'employer des mots qui vont peut-être au-delà de ce qu'ils devraient être, peut-être d'être un chef de guerre, ce à quoi, voilà ce que répond le chef de l'État Emmanuel Macron.
J'entendais dans les débats ces derniers jours des gens qui, en quelque sorte, remettaient en cause la menace géopolitique. Le président de la République inventerait la menace russe. La vraie menace, c'est le terrorisme. Parfois, ils ont d'autres obsessions même. Ces gens-là n'ont pas suivi l'actualité, manifestement. Et une grande nation, elle n'a pas à choisir. Elle a à répondre. Et elle n'a pas à décider de lutter contre les menaces géopolitiques qui s'imposent à elle, ou contre les menaces sur son sol projetées par les terroristes. Elle a à faire les deux en même temps.
Le président de la République était sur le chantier à Saint-Ouen de la future DGSI. Mais alors, il répond aux critiques. Emmanuel Macron est-il chef de guerre ou artisan de la paix, alors, Alain Duhamel ?
Bon, d'abord, j'aime pas beaucoup l'expression « chef de guerre », parce que chef de guerre, ça a un côté belliciste. Il est chef des armées, c'est les termes de la Constitution, donc il est chef des armées. Il n'est pas chef des armées pour agresser. Il n'est pas chef des armées pour envahir, il est chef des armées pour prévenir. On le sait bien. Là, il y avait la réunion des CEMA, enfin des chefs d'état-major général de 30 pays, qui n'étaient d'ailleurs pas tous européens. Et ils étaient là pour imaginer des modalités, en tout cas évaluer leurs forces, leur disponibilité, pour, s'il y a un accord entre l'Ukraine et la Russie, proposer une garantie de paix, de poursuivre de la paix.
Donc c'est pas pour remplacer les Américains et continuer la guerre.
Non. Non,
il faut bien expliquer.
Ben oui, c'est ce que j'essaye d'expliquer. Oui. Bon, et l'idée qu'on entend, effectivement, il y a une partie des gens qui pensent ça, je crois, assez minoritaire quand même. Mais enfin, bon, il y a une partie des gens, puis ils ont chacun le droit de penser ce qu'il veut, de toute façon. Que en se renforçant, on fait de la musculation et on veut démontrer qu'on est plus fort que les autres. Ça n'est quand même pas un hasard s'il y a en ce moment 25 pays européens, 25 gouvernements qui tous décident qu'il faut, dans les circonstances actuelles, renforcer leurs moyens. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard non plus si on dit qu'il faut mobiliser jusqu'à 800 milliards pour financer les équipements. On peut dire c'est trop, on peut dire on s'affole, etc. Mais là aussi, personne n'a envie d'emprunter spécialement pour pouvoir dépenser de l'argent de cette façon-là. Et on dit, est-ce qu'on est vraiment les adversaires de la Russie ? Mais c'est la Russie qui présente l'Europe comme un adversaire. Et au sein de l'Europe, c'est toute sa propagande, c'est public d'ailleurs, c'est sur les chaînes officielles russes. Au sein de l'Europe, c'est la France qui est montrée du doigt plus que les autres parce que, sur le plan militaire, elle est un peu plus forte. Je pense qu'on fait de la prévention pour empêcher un conflit et pas du tout, on n'est pas des envahisseurs en puissance.
Donc Macron n'est pas un va-t-en guerre.
C'est une bonne question, chef de guerre ou chef de paix. C'est la question cruciale d'ailleurs que vous posez. La réponse est chef de paix, bien évidemment. Pourquoi ? Parce que c'est la mission de l'Europe d'être une force de paix, une force de dissuasion. Et la meilleure façon d'empêcher les guerres, qui sont de toute façon l'action la plus effroyable que les êtres humains puissent se faire les uns contre les autres, c'est toujours l'ultime recours, c'est la mort, c'est la destruction, c'est la dissémination de... toute une génération de jeunes qui sont décimés, dont leur pays a besoin. C'est effroyable. D'ailleurs, on ne les voit pas, ces victimes. Vous aurez observé
qu'à l'heure de la communication... On les voit derrière vous, voyez, Mme Royal, dans le mur derrière vous, on voit les visages de toute cette jeunesse ukrainienne qui est tombée aujourd'hui pour la paix.
On les voit très peu, en fait. Et la question, donc, c'est de savoir à quelles conditions on peut faire la paix. La meilleure façon, c'est d'anticiper les conflits. Ça, c'est évident. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend parler de forces d'interposition. Elles auraient dû être mises là au moment du traité de Minsk, au moment des accords de Minsk, notamment en 2014. Si là, il y a des troupes qui avaient été mises sur le terrain, peut-être que l'agression n'aurait pas eu lieu. Alors maintenant, on entend effectivement désigner l'adversaire. Je pense personnellement que c'est une erreur de désigner un adversaire. Parce que ça le renforce. Mais ça le renforce d'une certaine façon. Donc ça va de soi. Aujourd'hui, les adversaires sont ceux qui agressent. Demain, ça sera peut-être d'autres adversaires. Et donc, la question de la constitution d'une force indépendante en Europe de dissuasion, à la fois traditionnelle et dissuasion nucléaire, elle se pose de toute façon. Et le dernier point, c'est que pour être un artisan de paix, il faut parler à tout le monde, même si ça déplaît. Et pas commencer à agresser tout le monde. Alors, c'est quand même Trump qui, le premier, a mis la question de la paix sur la table. Même si ça nous déplaît, même si ça déplaît à certains, c'est quand même un fil, même si c'est un fil ténu, au fond, ça nous rend service, ça rend service à l'Europe.
Il y a des négociations en ce moment en Arabie Saoudite.
Ce point, mais arrêtons d'agresser les uns les autres, parce qu'on ne peut pas avoir comme ennemis les États-Unis en les menaçant en plus de faire des droits de douane supplémentaires, c'est-à-dire entrer en plus dans une guerre économique, les Russes en les insultant, l'Afrique, le continent africain.
En les insultant.
En leur tournant le dos.
C'est plutôt eux qui nous insultent.
Ne disons rien. On sait que ce sont les agresseurs. Donc regardons ensemble et soyons à la table des négociations, ce qui n'est pas le cas.
Première chose, vous dites Donald Trump s'est présenté comme un homme de paix. Le problème, c'est que il ne s'agit pas de lui reprocher de chercher la paix. Bien entendu, on peut.
Certains le font.
Non seulement ça, mais s'il s'agissait simplement de chercher la paix, il faudrait le féliciter. Il faudrait le féliciter, l'épauler et se mettre sur la même ligne. Mais il ne cherche pas la paix.
On ne sait pas.
Il s'est exprimé lui-même. Il s'est exprimé quand même suffisamment et pendant sa campagne et depuis qu'il est président là-dessus. Ce qu'il a fait, c'est de proposer la paix russe. Si c'était sa paix, une paix équilibrée, si c'était de dire, il faut négocier, et oui, il faut trouver un accord équilibré, et oui, ensuite, il faut qu'il y ait des garanties. Ça serait très bien. Et ça serait très bien, on pourrait le faire. Il n'a pas dit ça. Il a dit ce que propose Poutine, c'est ce qu'on va faire.
Et c'est ça qu'il ne faut pas laisser faire. Ne sous-estimons pas notre pouvoir d'influence et notre pouvoir politique. Si on se met en marge des négociations, si on n'est pas autour de la table, on ne peut pas faire changer Trump.
Mais je ne dis pas ça.
Non, mais vous voyez ce que je veux dire. On dit, il a proposé ça, donc ça ne nous convient pas. Attends, je finis.
Mais je ne dis pas qu'il faut bouder.
Eh bien, c'est ce qui se passe aujourd'hui, puisqu'on n'est pas à la table des négociations.
C'est parce qu'ils ne veulent pas.
Oui, mais ils ne veulent pas parce que
la position britannique, elle est plus équilibrée. Starmer, le Premier ministre, assez habile, n'a pas coupé les liens avec Trump tout en étant un interlocuteur privilégié d'Emmanuel Macron.
Eux, ils seront toujours alignés sur les États-Unis parce que c'est les
anglo-saxons. Moi, puisque le chef d'état-major britannique
mais vous avez raison,
est à la Réunion en ce moment.
Il prend une distance et il essaye de faire le go-between entre les deux.
Il joue sur deux tableaux, le chef de l'État. C'est-à-dire qu'il doit en même temps montrer de la fermeté et le camp de la paix vis-à-vis de l'extérieur. Oui. Et puis, il a une opinion publique qui, valide pas forcément, peut-être, le fait de montrer la Russie, de dire la menace, elle est que russe, alors qu'il y a des problèmes intérieurs.
Écoutez, moi, je suis pas pour constitutionnaliser les réponses des sondages. Mais quand on les lit sur cette question, on voit bien qu'il y a un soutien... Je dirais pas, moi, à Emmanuel Macron, mais un soutien à les décisions collectives des Européens d'essayer de se mettre d'accord pour constituer une force suffisante pour ne pas être agressé et pour ce qu'ils proposent. Et là, on ne peut pas dire le contraire, puisque cette image le montre et la réunion, c'est aujourd'hui même. Ce qu'ils proposent, c'est-à-dire d'aider à la paix, de garantir la sécurité de l'Ukraine après qu'il y ait eu un accord. Maintenant, donc, je pense
sauf que les Russes n'en veulent pas, il faut le rappeler. Non, les Russes ne veulent pas de soldats européens à la frontière.
C'est exactement ce que j'allais vous dire. On fait une proposition, je pense que c'est une proposition dont on peut se réjouir, puisque c'est une proposition de paix et en même temps pas d'abandon. Donc, je pense que c'est quelque chose d'équilibré. Bon. Et la seule chose, c'est que les Russes, pour l'instant, n'en veulent pas. Alors, j'espère qu'ils changeront d'avis. Mais encore faut-il que les Américains, un, arrivent à les faire changer d'avis, et deux, si Trump a un rôle à jouer maintenant positif, c'est de peser de toutes ses forces sur Poutine pour que les Européens soient associés aux négociations.
Il faudrait qu'il y ait un accord à Jeddah. S'il y a un accord à Jeddah, ça sera un début.
Non, ce que je trouve positif dans ce que dit Emmanuel Macron, c'est qu'il ne reprend pas le discours des va-t-en-guerre sur si vous voulez la paix, vous êtes démunis quoi, négocier, c'est capituler, etc. Je rappelle d'ailleurs qu'il faut arrêter cette histoire de vous êtes démunis quoi si vous voulez la paix, parce que Munich. Hitler est déjà au pouvoir depuis 5 ans. Donc Munich, c'était déjà trop tard pour éviter la guerre. Et donc il fallait anticiper, il fallait peut-être empêcher l'arrivée d'Hitler au pouvoir en réglant correctement la guerre de 14 et avant ça, en empêchant la guerre de 14. Puisque ceux qui tiraient la sonnette d'alarme à ce moment-là, comme Georges Rey, disaient attention, il y a 5 ou 6 excités enfermés dans une salle qui vont déclarer la guerre. Il faut empêcher ça. Tout le monde a ricané, tout le monde a dit oh non, va-t'en en guerre, la fleur au fusil, ça ne va pas durer longtemps. Et donc l'intelligence des responsables politique, c'est d'anticiper les choses au bon moment et d'arrêter la montée en puissance des conflits ou d'arrêter la montée en puissance des agresseurs. Parce que les agresseurs, il y en a dans le monde humain, il y en a dans le monde animal, les dominants, ceux qui veulent prendre les territoires des autres, ça existe. Donc ceux-là, il faut les repérer et les empêcher d'accéder au pouvoir. Et la seconde chose, c'est que si on veut rentrer dans une logique de paix, ne pas faire peur aux Français en leur disant qu'on va leur prendre leur épargne, que c'est... Parce que qu'est-ce qu'ils disent les Français ? Ils disent, pour faire la guerre, on trouve de l'argent, mais pour construire la prospérité, là, il n'y a jamais d'argent et on nous menace sur notre modèle social. Et donc, je pense que la force des démocraties, c'est de consulter les peuples. Et quand on consulte les peuples, ce qui est important pour les responsables politiques, c'est du coup, ils sont obligés de préciser leurs intentions, de travailler sur leur stratégie, d'expliquer ce qu'ils veulent faire, et surtout de prendre aussi l'argent là où il est. Non, parce que dans la guerre, il y en a qui se sont enrichis. Il faut peut-être aussi remettre à plat ceux qui se sont enrichis dans la guerre, les filières industrielles, les filières d'armement, et leur dire, il faut maintenant que vous contribuiez aussi et que ça soit une juste répartition des efforts, alors que là, attention à la menace sur le modèle social, parce que les gens, sinon, se retourneront contre l'Europe. Et ça, il faut vraiment être extrêmement sensible à ce sujet.
D'une part, il a été dit, on peut discuter de savoir si c'est totalement possible ou pas totalement possible, mais il a été dit qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. D'une part. D'autre part, il a été dit qu'il n'était pas question de remettre en cause le modèle social. D'autre part. Et enfin, quand vous dites, et ça a été dit officiellement, je veux dire, dans un cas par le président et dans l'autre par le Premier ministre. Vous dites, on trouve de l'argent pour la défense, parce que ce n'est pas pour faire la guerre, c'est pour la défense, c'est pour empêcher.
Comment les gens réagissent ?
Oui, mais on trouve l'argent, alors moi j'ai... Deux questions. La première, c'est que au stade où en sont nos finances publiques et au stade où est notre endettement, de toute façon, cet argent-là, il ne va pas être commode à trouver. Et l'autre question, c'est quels sont les choix à faire pour trouver de l'argent ? Parce que les impôts, on peut tout à fait imaginer des impôts qu'on dit provisoire, disons exceptionnel.
On l'a déjà fait déjà dans ce budget. Hein.
Mais là, il s'agit de sommes considérables supplémentaires. Oui. Mais on peut l'imaginer. Je ne vous dis pas que je le souhaite. Je dis on peut l'imaginer. Autrement, s'endetter de façon supplémentaire, c'est complètement fou, puisqu'on a déjà un mal de chien à régler les intérêts de notre endettement. Donc c'est pas la solution. Y a des solutions qui existent. Elles sont pas commodes, mais il y a des solutions qui existent. D'abord, on dit depuis toujours, il faut réformer l'État, et François Bayrou le dit encore en ce moment, il faut réformer l'État pour le rendre plus rationnel, moins dépensier. Moi, je suis absolument d'accord sur le principe, mais j'attends qu'on me propose la recette.
Il faut donc réduire le nombre de fonctionnaires.
Puis d'autres choses, puis pas seulement le nombre des fonctionnaires, aussi les dépenses sociales, etc. Moi, je dis, c'est bien gentil de le dire, mais lesquelles? Et, et concernant qui?
On ne peut pas. Mais d'abord,
les socialistes disent qu'il faut augmenter les impôts.
Je vais vous dire. D'abord, il faut dire de combien on a besoin et pourquoi faire.
50 milliards.
Mais qui a dit 50
Il faudrait
milliards
doubler. Mais le Cornu, le ministre, pardon, Sébastien Le Cornu dit qu'il faudrait doubler le budget à défense et donc passer de 50 à 100 milliards.
Entre la présidente de la Commission qui nous dit qu'il faut 800 milliards, chacun y va de ses milliards.
800 milliards, c'est ça.
Vous savez, je vais vous dire une chose.
C'est en 2030 dont il s'agit, ce n'est pas cette année.
Mais de quel droit ces sommes sont mises comme ça sur la table?
Il faut en discuter au Parlement.
Mais pourquoi faire? Vous voyez, moi, franchement, je pense qu'il y a un vrai danger. Hein, si on n'explique pas clairement quels sont les objectifs, pourquoi on a besoin de cet argent, peut-être que c'est cette somme, peut-être que ce n'est pas cette somme. Et quels sont les buts poursuivis? Comment est-ce qu'on met en place la dissuasion? Comment est-ce qu'on utilise déjà correctement ce qui existe en termes de dissuasion nucléaire par rapport à la protection de l'Europe? Quels sont les besoins complémentaires? Dans quel délai, etc. Une fois que les dirigeants auront clarifié ça, on dira voilà, par rapport à ça, voilà cette somme. Aujourd'hui, ce qui ne va pas, qui doit être vite rectifié, parce que sinon la confiance populaire se retirera de cette démarche et on a besoin de la confiance populaire et de l'union de l'Europe parce que nous ne sommes déjà pas en situation économique favorable avec le déficit public que nous avons, avec l'effondrement de l'industrie. Vous avez dit que l'industrie n'est plus que 10% du PIB en France, c'est-à-dire que l'Europe n'a pas été non plus capable de défendre l'industrie.
L'industrie de l'armement va se développer rapidement.
Dans quel délai, puisqu'on n'a plus les industries lourdes. Donc, de toute façon, on va dépendre.
L'industrie de l'armement, elle va se développer.
Pour fabriquer des armes, il faut des industries lourdes. Elles ont toutes fermées.
Pour l'instant, on ne produit plus de munitions en France, par exemple.
Et puis les fonderies, tout ça a disparu. L'acier, tout ça a disparu. Donc, il faut reconstruire cette industrie.
Mot de la fin, s'il vous plaît.
Un, quand vous dites on ne peut pas construire de munitions, c'est le contraire qui vient d'être démontré justement pour les obus. Justement, on l'a démontré. Obus. Donc on peut. Deux, je suis d'accord sur un point avec Ségolène Royal, c'est qu'il faut effectivement expliquer précisément ce qu'on veut faire et pourquoi on veut faire. Mais trois, on ne peut pas répondre du jour au lendemain. Pour l'instant, on en est à prendre des options. Ben maintenant, il faut préciser un plan. Et une fois qu'on aura un plan vraiment détaillé avec des évaluations, et ce sur quoi je m'interroge le plus, d'où viendront les ressources? Une fois qu'on aura ça, à ce moment-là,
il faudra un plan sérieux et clairvoyant pour marquer l'union de la nation.
Un référendum, c'est la meilleure façon de poser une question à laquelle on ne répondra pas.
Ça dépend.
Ou répondre non.
Si la question est bonne.
Merci à Alain Duhamel, merci Ségolène Royal.